Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, nous reprenons notre évangile de Matthieu durant l'été et je vais faire un suivi dans les chapitres les uns après les autres. Et la dernière fois, nous avons vu l'humilité. L'humilité peut devenir une gangrène, l'orgueil peut devenir une gangrène dans l'Église, mais l'humilité est quelque chose que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, puisque je voudrais simplement vous rappeler que les disciples posèrent cette question à notre Seigneur Jésus-Christ, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et le Seigneur leur a montré assez rapidement qu'il n'y a pas un trône plus que l'autre dans l'éternité, mais que les enfants avaient une grande importance et cette attitude simple, humble des enfants, doit nous en inspirer dans notre vie quotidienne. Mais le Seigneur continue d'enseigner ses disciples. Il va continuer à le faire, d'abord en les enseignant avec cette façon de penser, donc dans le sens de l'humilité. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, Seigneur, enseigne-moi l'honnêteté au sein de l'Église, mais aussi dans ma vie courante de tous les jours. Enseigne-moi l'honnêteté. La vie chrétienne est une vie qui doit changer. La vie chrétienne est une vie qui, on doit inspirer à la sainteté. Ça ne veut pas dire que le chrétien va devenir parfait. Loin de moi l'idée de le penser ce matin. Et quand on parle de péché, eh bien la Bible donne certaines ordonnances. On va mettre ce texte dans le contexte. C'est sur certaines conditions, d'accord? On ne doit pas non plus faire n'importe quoi au sein de l'Église. Et si le Seigneur enseigne cela, eh bien nous avons besoin d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à cela. Matthieu chapitre 18, je vais lire les 6 versets, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce qui vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce texte. Personnellement, il y a des textes dans la parole de Dieu où on se pose pas mal de questions. Et la Bible nous dit clairement quand un chrétien, et là c'est clair que c'est un chrétien, si ton frère a péché, d'accord, il y a une procédure que l'Église doit mettre en place. D'accord, on parle bien de péché. Hein? On ne parle pas de certaines choses, je dirais, quoi que l'esprit de gourmandise peut devenir un péché parfois, mais bon, soyons clairs entre nous par rapport au texte qui est donné. La Bible parle bien de péché, d'une personne qui offense, qui blesse une autre personne. Et on a besoin, en tant qu'Église, d'avoir un règlement dans ce domaine afin que nous puissions pratiquer. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait les dieux avaient prévu pour le péché involontaire. C'est-à-dire que il y a des personnes qui pêchent involontairement, eh bien Dieu leur avait donné l'attitude qu'ils devaient avoir quand ils avaient un péché involontaire. Ils devaient apporter un jeune taureau, Nombre chapitre 15, verset 24. Alors je ne sais pas si vous avez péché involontairement durant cette semaine. En tout cas, je vois beaucoup de voitures, mais je ne vois pas de jeunes taureaux à l'extérieur de ce bâtiment. La chose, elle est que il nous arrive parfois de pécher involontairement. Et on n'est pas forcément conscient de cela. Les fautes involontaires impliquent que parfois, on fait des choses dans la vie, on blesse, on offense une personne sans forcément être au courant de cela. Le roi David a dit dans le psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Eh bien, il y a des choses qu'on ignore parfois. Quand un chrétien, on blesse un chrétien, ou on fait des choses, on dit des choses qui, la personne a mal comprises, ou fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, si je crois dans mon cœur, en relisant et en étudiant le texte de la parole de Dieu, que cette mise en pratique de ces quelques versets, si elles étaient prises vraiment au sérieux, bien des églises auraient évité des scandales dans l'histoire. Je pense que si le Seigneur a donné ces quelques instructions, l'église d'aujourd'hui devrait s'en inspirer. Alors, la discipline, c'est quelque chose qui se pratique au sein de l'église, et c'est des choses qui sont pas toujours bien comprises. Parce que souvent les gens vont vous faire cette remarque, qui sommes-nous pour juger telle ou telle personne? Je pense qu'à un moment donné, une personne qui pêche est une personne qui s'exclut d'elle-même de l'Église. Et je pense qu'à un moment donné, nous devons prendre conscience de cela. C'est l'attitude de la personne qui est importante, et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler en toute simplicité au travers de ce texte. Première instruction que nous voyons dans ce texte, le verset 15. Si ton frère a péché, alors il faut que ça soit révélé le péché, d'accord? Si c'est un péché involontaire, vous ne pouvez pas être au courant de ce que vous avez fait à autrui, mais si ce péché est vraiment révélé, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Je dirais tout d'abord, la première instruction que le Seigneur a donnée dans sa parole, c'est garder l'affaire secrète. Je pense que la Bible, elle est claire, et nous devons prendre acte de ce qui est dit dans ce verset. S'approcher d'une personne en tête à tête, dire les choses en tête à tête, eh bien, évite la propagation du péché. Et je pense que quand le Seigneur dit ce genre de choses, eh bien, il y a un compte rendu. Vous savez, bien souvent, combien de fois j'ai entendu des choses au téléphone qui ne méritaient même pas mon déplacement. Mais souvent, des fois, on fait une montagne de certaines choses qui peuvent être réglées tout simplement. Là, c'est délibéré, c'est-à-dire c'est un péché qui est reconnu et qui doit être soumis dans le fait qu'une personne fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a de la gradation, enfin de la, une gradation, oui, vous m'avez compris, un escalier dans les fautes qu'on commet? Je pense qu'il y a des choses qui sont clairement définies comme un péché, et le Seigneur nous demande d'aller clairement voir la personne pour lui dire là, tu as fait un peu, tu as dépassé certaines limites. Je voudrais vous montrer un autre texte qui est en parallèle au texte que nous venons de lire ce matin. C'est dans Galates. Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc ici, il est clairement dit de la part de l'apôtre Paul que la personne transgresse la loi divine. Et je pense que nous devons aller nous approcher de cette personne avec une certaine humilité et douceur. Le texte qui est donné ici, c'est une expression médicale en grec qui dit que redresser une personne, c'est réduire une fracture. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée de réduire une fracture. C'est-à-dire que le but de la rencontre, c'est d'éviter que cela se propage, d'éviter d'aller au-delà. Et je pense que le Seigneur nous demande de le faire avec un grand amour et une grande tendresse quand on va voir une personne. Je pense que le Seigneur nous demande de la patience, de la tendresse quand on va voir une personne. Cela a pour but de le changer. Non pas de sortir de là à dire « voilà, je suis victorieux, j'ai gagné ce frère ». Non, non, ça a un but pour le changer, lui, dans l'amour du Seigneur. Le péché doit être mis à l'abri du commérage. Et je pense que le texte le dit clairement, eh bien, si on doit aller plus loin, on ira plus loin si c'est nécessaire, mais si ce n'est pas nécessaire, je pense que cela doit s'arrêter assez rapidement. J'ai lu un article cette semaine, je profite des vacances pour oser le changement. Alors je ne sais pas comment on peut oser le changement pendant la période des vacances. Moi, en période de vacances, franchement, j'ose pas le changement. En principe, je me prélasse, je me relaxe, je fais tout pour changer mon esprit, de mettre mon esprit ailleurs, mais de là à dire je vais prendre des vacances pour changer, c'est une autre question. Mais cet article disait quelque chose de très intéressant. Il disait que les frères et les sœurs devraient prendre le temps des vacances. Pourquoi ? Pour profiter à écouter plus Dieu. Tiens, voilà un temps peut-être de réflexion. Nous sommes allés vendredi chez les Camangeants. Et Pierre, qui est ici, si vous allez dans son jardin, il a mis un magnifique hamac. Je dis, c'est formidable, il est sous un arbre. Et ce frère, alors je divulgue quelque chose que tu as dit publiquement, donc je ne fais rien que divulguer quelque chose, mais ce frère me dit, ben, sous ce hamac, je prends le temps de lire le journal, mais sous ce hamac, je prends aussi le temps de lire la Bible. Je me dis, mais je rebondis sur ton affaire, mon frère, mais voilà un temps pour être à l'écoute de Dieu, pour être proche de Dieu, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors ce frère, il a mis un hamac. Moi, je me suis posé la question, est-ce que je dois mettre un hamac chez moi pour être à l'écoute de Dieu? Je vous rassure, j'ai d'autres choses que le hamac à la maison. J'ai des magnifiques fauteuils. Je m'assois sur des magnifiques fauteuils sur ma terrasse, mais un temps d'écoute avec Dieu peut changer notre manière de penser. Et je pense qu'on a besoin, en tout cas dans le péché aujourd'hui, qui nous enveloppe, qui nous entoure si facilement, on a besoin d'être à l'écoute de Dieu dans ce domaine. Deuxième pensée par rapport à cet article, un temps pour réfléchir. Beaucoup de gens vont en vacances, mais ce n'est pas pour réfléchir. C'est pour changer de région. Ils refusent le nord, ils vont dans le sud. J'ai écouté un article que beaucoup de gens du sud se rapprochaient du nord parce qu'il n'y avait pas besoin de climatisation dans le nord, parce qu'il faisait plus frais dans le nord que dans le sud. Mais est-ce que nos temps de vacances sont un temps de réflexion avec le Seigneur pour changer parfois notre vie? Troisième chose qui était dit dans cet article, un temps pour méditer. C'est vrai que quand on est dans la vie active, la vie de tous les jours, quand on prend le train le matin de bonne heure et quand on rentre le soir parfois à 23 heures ou 24 heures, parce que votre train est arrivé en retard, je ne sais pas si vous avez le temps de méditer dans le train. Bien souvent, on maudit la CNCF de ce temps que nous n'avons pas pris tranquillement avec la famille. Mais un temps de vacances peut être un temps de méditation pour que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu. Quatrième chose qui était donnée, un temps pour changer. Alors, paraît-il, les bonnes résolutions, on doit les prendre à un moment donné. Je suis allé voir le médecin cette semaine pour aller renouveler mon ordonnance. Et il a dit, « Waouh, monsieur Biancourt, mais vous avez changé deux points de gagner pour le diabète. » Il me dit, « Vous devez encore faire des efforts. » Mais je viens de faire des efforts, j'ai dit au médecin. Ça fait trois mois que je fais des efforts. Vous l'avez bien vu, deux points j'ai gagné. Vous devez faire encore des efforts. Donc il m'a dit, vous devez encore changer. Il y a des choses que vous devez encore changer, monsieur Biancourt. Et la dernière réflexion qui était donnée dans cet article, un temps pour progresser. Un enfant de Dieu doit progresser. Un enfant de Dieu doit grandir. Vous n'êtes pas toujours au lait spirituel. À un moment donné, il va falloir vous mettre dans la viande. Alors ça, c'est une illustration que nous trouvons dans la parole de Dieu. Votre enfant, à un moment donné, si vous lui donniez que du lait, à un moment donné, elle dirait, écoute, papa, j'ai des dents maintenant, je peux mastiquer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de mastiquer parce que mes dents ont besoin de travailler. Et je crois qu'un enfant de Dieu a besoin de cette affaire-là, de progresser. Pourquoi? Pour rester proche du Seigneur, pour ne pas pécher contre le Seigneur. Oui, un temps de vacances doit être un temps pour oser le changement. Et bien souvent, vous savez, le Seigneur nous rappelle que le péché ne doit pas être pris à la légère au sein de l'Église. Et quand il est pris à la légère, eh bien malheureusement, bien des choses se passent au sein de l'Église et ça dérape assez rapidement. Vous, peut-être, vous connaissez des histoires, je connais personnellement des histoires qui ont fait déraper certaines églises parce qu'elles n'ont pas pris la chose au sérieux par rapport à la discipline. Deuxième instruction, demander de l'aide à une ou deux personnes, verset 16. Alors, au début, c'était une affaire avec deux. Là, ça devient une affaire de quatre ou de cinq personnes. Ça commence un petit peu, le groupe commence un petit peu à grandir. Mais il faut dire les choses clairement. Parfois, les personnes ou la personne n'a pas du tout envie de changer. Et cette attitude d'être à l'écoute, d'être dans la réflexion, de méditer, de changer, de progresser, il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de changer. Et le Seigneur nous le demande clairement au verset suivant, qui dit, mais s'il t'écoute, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Vous savez, je pense que c'est bon, et la Bible nous encourage à cela, à avoir une multitude de conseillers, parce que parfois, on a des a priori, on a des idées sur certaines choses et on n'en démord pas de ces idées. Et comme on n'en démord pas, on a besoin du conseil d'autrui. Et si le Seigneur nous dit, eh bien, peut-être que les personnes qui vont venir avec toi pour ce frère vont avoir peut-être une oreille différente de la tienne. Toi, tu l'as écouté, mais ses frères et sœurs peut-être vont avoir une idée complètement différente sur l'attitude à avoir vis-à-vis de cette personne, et je trouve très intéressant parce que quelque part, quel est le but de demander à deux ou trois personnes? Eh bien, de venir, surtout de prier pour cette personne, d'avoir une communion plus intime, de pouvoir essayer de régler le problème avec la personne et de la persuader que ce qu'elle fait n'est pas à la gloire du Seigneur. Je pense que on va pas dans le but de être plus que vainqueur, non, c'est dans le but d'expliquer à la personne ce qu'elle fait n'est pas à la gloire de Dieu. On a besoin parfois de se confronter par rapport à nos attitudes que nous avons, et nous voulons constater ici, je ne sais pas si vous avez déjà laissé une pâte de pizza un peu plus longtemps que prévu. Le mail, il fait effet, hein, et ça déborde assez rapidement. Et le Seigneur l'a enseigné, l'apôtre Paul l'a enseigné, que le péché peut gonfler rapidement et peut prendre des dégâts au sein de l'Église si nous ne faisons pas attention à cela. Alors le Seigneur nous demande, ben voilà, maintenant si cette personne ne t'écoute pas, eh bien, mets en pratique avec deux ou trois personnes, va le voir et essaye de voir s'il peut changer. Troisième instruction, demander de l'aide à l'Église. Là, c'est le repas. De deux, on passe à cinq ou quatre. Là, c'est le repas. Le groupe doit être au courant de ce qui est en train de se passer. Et ici, c'est pour éviter la propagation. Je relisais un texte durant cette semaine. C'est l'apôtre Paul qui enseigne l'Église aux Corinthiens d'un fait qui est en train d'être rapporté aux oreilles de l'apôtre Paul. Paul n'était pas dans cette Église au moment, en tout cas, où il est en train d'écrire, mais ce fait lui est rapporté dans son oreille, et voilà ce que Paul est en train de dire à cette Église par le courrier qu'il est en train de lui envoyer. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vous comprenez un petit peu la situation qui est en train d'être vécue dans l'église de Corinthe. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Waouh! C'est difficile de comprendre cela, mais c'était quelque chose qui était vécu dans l'église de Corinthe. Et vous qui êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est-à-dire que la situation était connue de l'Église. Là, c'était le groupe qui était au courant. La situation était connue de l'Église et l'Église laissait faire. Voilà ce qui est en train d'être dit dans ce texte. L'Église était en train de laisser faire la situation. Eh bien, quand il y a quelqu'un qui commet un péché, l'Église, parfois, doit être mise au courant. C'est pas facile, hein, de dire à quelqu'un, t'as pas envie de changer, ben je vais te considérer comme un païen et comme un publicain. Mais en même temps, frères et sœurs, c'est qui se met en jeu? C'est la personne qui pêche, n'est-ce pas? Si la personne se repent, elle se met pas en jeu. Si par contre la personne qui ne veut pas changer, qui n'a pas l'attitude de changer, eh bien l'Église doit être mise au courant et la personne doit être considérée comme un païen et comme un publicain. Alors vous allez peut-être me dire, mais qui sommes-nous pour juger? Je le dirai en conclusion. Ananias et Saphira, c'est pas Dieu qui a jugé, hein. C'est de la bouche de l'apôtre Pierre, hein, qu'ils ont été jugés par leur malhonnêteté. Parce que ces personnes étaient en train de montrer une attitude qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu. Il montrait une apparence spirituelle qui n'était pas réellement. Alors, bien sûr, nous avons besoin de nous le rappeler, ces instructions, de demander parfois l'aide de l'Église. La discipline était connue à l'époque de la part des disciples. Les disciples vivaient à une période, je dirais, de transition entre les synagogues qui étaient là à l'époque et l'Église qui était une Église qui était grandissante. Les disciples savaient ce que ça voulait dire être discipliné. Dans les synagogues juives, la discipline était quelque chose de très connu, de très pratiqué. Les juifs pratiquaient cela et on évitait les conflits, on évitait le péché, parfois dans les synagogues. Et je pense que quand le Seigneur rappelle cela, à l'idée de l'assemblée, eh bien nous devons faire très très attention. Quatrième instruction, l'Église locale doit rester spirituelle, tout simplement parce qu'il est dit au verset 18 et verset 20, « Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc l'idée, c'est que l'Église reste avant tout spirituelle. Alors là, bien sûr que le Seigneur a donné l'autorité à l'Église, et cette autorité, c'est pas une personne qui l'a donnée. L'Église n'est pas là pour être le shérif. On n'a pas le but ou l'option d'être le shérif. Les chrétiens doivent faire attention à ce qu'ils font dans la vie. Mais en même temps, nous, en tant qu'Église, nous devons être soumis à notre autorité, qui est le Seigneur avant tout, et l'Église locale doit être l'idée, en tout cas, que nous avons, l'Église parfaite, bien sûr, que nous attendons dans l'éternité. La parole doit être la première mise en avant, et c'est le cas ici dans le texte. Se mettre en accord. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression, se mettre en accord. Je vais vous donner une petite image de se mettre en accord. En grec, ce mot signifie, on a tiré de ce mot, en grec, la pensée de la symphonie. Alors les musiciens connaissent ce que c'est la symphonie, ou l'harmonie. Quand on se met en accord, on est ensemble. Hein, on joue d'un même son. Hein, quand il y a quelqu'un qui chante et qui n'est pas en harmonie avec les autres, ça déraille, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Quand on n'est pas en symphonie, quand le son n'est plus de la même écoute de tout le monde, eh bien, une église doit être en symphonie, en accord. On doit tous jouer de la même musique, mettre en accord dans quoi ? Dans la prière. Si un membre est rebelle, bien nous devons lui dire simplement, mon frère, ma soeur, tu es rebelle. Et c'est parfois difficile de le dire, mais nous voulons le faire avec une certaine détermination parce que le Seigneur nous le demande de le faire. Cinquième et dernière instruction, l'Église doit rester en communion fraternelle. Et cela nous montre bien que l'Église, c'est le Seigneur qui l'a bâtie, c'est pas les hommes et les femmes. Bien souvent, certaines personnes se sont vantées d'avoir construit des bâtiments. Moi, je pense que nous sommes des pierres vivantes. Nous bâtissons ensemble un édifice à la gloire du Seigneur, mais bien souvent, c'est pas toujours à la gloire du Seigneur, et on doit tout simplement nous le rappeler. Deux problèmes dans l'Église primitive ont surgi par rapport à ce que le Seigneur a enseigné ici. Le premier problème interne auquel l'Église a été confrontée, c'était la malhonnêteté. Je vous l'ai dit, je voudrais vous le rappeler, c'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient deux personnes qui, étant devenues chrétiennes, parce que Jésus avait changé leur vie, changé leur cœur, mais à un moment donné, ces deux personnes ont manifesté malheureusement, ils ont laissé la place à Satan, au diable. Ils ont montré une image de spiritualité qu'en réalité ils n'étaient pas. Ils ont profité de la situation pour vendre un bout de terrain. Ça c'est pour Dieu, ça c'est pour moi. Quel est le problème par rapport à ça? Oh non, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont caché l'affaire. Et ils ont montré, ouais, moi plus spirituel que toi. Regardez ce que je donne à Dieu. Ouais, mais ça s'est su. Ça s'est su et certains chrétiens ont réagi. L'hypocrisie est devenue à la lumière de la parole de Dieu. Et en même temps, le jugement a été prononcé par l'apôtre Pierre, qui a dit, eh bien, tu as caché cela à Dieu, tu as menti au Saint-Esprit, il y a eu un jugement de la part directe, de la part de Dieu. Alors, je vous rassure, hein, tous les hypocrites aujourd'hui ne sont pas jugés comme cela. Imaginez le jour où vous mentez, ou que vous manifestez de la malhonnêteté. Vous devriez faire attention, si le ciel va vous tomber sur la tête. Non, non, je vous rassure. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de bonté. Si chaque fois sur cette terre on se louperait, si chaque fois on manifesterait de l'hypocrisie, si chaque fois on commettait quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu, eh bien, il n'y aurait plus de chrétiens. Je serais en train de prêcher ce matin, peut-être dans le vide. Je ne pense pas que Dieu juge tous les hypocrites de la terre, heureusement. Heureusement. Mais nous devons aussi prendre acte par rapport au péché. Le péché a toujours des conséquences. Que vous le vouliez ou pas, les choix que vous prenez dans votre vie auront toujours des conséquences. Et c'est quelque chose que nous devons prendre acte au travers de la parole de Dieu. Deuxième problème interne, c'est acte 6. Un problème dans l'église locale. Et un problème qui a été résolu par les chrétiens. Je voudrais vous montrer, en ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Donc les veuves étaient négligées. La distribution des biens matériels qu'ils recevaient, eh bien, il n'y avait pas une saine répartition comme il devait être fait. Et le problème que là nous avons dans la parole de Dieu nous montre bien que les disciples ont résolu assez rapidement le problème. C'est-à-dire qu'ils ont évité que les veuves soient à leur tour négligées. Et ils ont mis en place quelque chose au sein de l'Église pour éviter justement que le problème continue. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de Saint-Esprit, de sagesse, et que l'on chargera pour cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Vous connaissez les personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Vous aviez Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicador, Timor, Bar-Ménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et les disciples continuèrent tout simplement à manifester donc ce que le Seigneur leur avait donné. Un problème résolu assez rapidement au sein de l'Église. Je pense qu'il est convenable de résoudre les problèmes comme le Seigneur nous le montre dans sa parole. Quand il y a le péché, bien nous devons tout simplement le dire, être honnête avec cela et de manifester les étapes que le Seigneur a à nous dire dans ce domaine. Que le Seigneur nous instruise avec ce texte, que cette période de vacances nous laisse le temps d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Un temps pour réfléchir, peut-être à notre attitude. Un temps peut-être à méditer. Un temps aussi pour changer. Changer quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et en même temps, frères et sœurs, un temps pour progresser. Que nous puissions prendre le temps avec le Seigneur durant cette étude. Amen.